Bonjour Camille Lons.
Bonjour.
Camille Lons, spécialiste du Moyen-Orient, chercheuse et coordinatrice du programme Moyen-Orient au Conseil européen des relations internationales. Alors le sommet économique d'Arabie Saoudite, surnommé le Davos du désert ou Davos saoudien, débute aujourd'hui. Ça devait être la vitrine de l'Arabie Saoudite et pour aussi de la politique de Mohamed Ben Salman. Mais après l'affaire Khashoggi, ça a changé la donne. Défections sont nombreuses et depuis hier, Berlin appelle les pays européens à suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Camille Lons, qu'est-ce qui est en train de se jouer là actuellement pour l'Arabie Saoudite?
Alors c'est un tournant en effet pour le pays. C'est une crise qui est sans précédent, en tout cas qu'on n'a pas vu depuis le 11 septembre 2001 et qui pourrait avoir un impact important sur le leadership saoudien et notamment sur le prince héritier Mohamed Ben Salman qui est directement pointé en ce moment même par les fuites un petit peu de l'enquête qui commence à arriver dans les médias, même si la version saoudienne officielle tente de le dédouaner. Le président Erdogan a dit qu'il mettrait public aujourd'hui un certain nombre d'éléments de l'affaire et qui le pourrait le mettre en cause. Et la grande question va être quel impact ça va avoir sur sa place dans le royaume.
Voilà, est-ce que Mohamed Ben Salman joue ici son avenir politique?
C'est possible, en effet. La question, ça va être quel type d'avenir et comment la crise va être gérée par l'Arabie Saoudite. Il semble que son père, le roi Salman, a beaucoup investi quand même dans son fils, beaucoup de sa légitimité. Pour l'instant, il semble assez peu probable que Mohamed Ben Salman soit mis de côté de manière trop directe et trop visible. Ce serait désavouer, en fait, la politique et les choix qui ont été faits par le roi Salman lui-même. Mais il est possible, en effet, que le roi Salman reprenne en main un petit peu certains dossiers, comme il l'a déjà fait en Israël-Palestine ou sur le dossier d'Aramco. Donc il est possible un petit peu que le roi Salman reprenne un petit peu la main pour réimposer un petit peu sa propre légitimité.
Mais il est âgé, le roi Salman, il a 84 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on peut adjoindre à Mohamed Ben Salman quelqu'un? Et la question est qui?
Là, c'est la grande question, en effet, parce que pour l'instant, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de vice-prince héritier, ce qui est normalement le cas. Mohamed Ben Salman avait fait en sorte qu'il n'y en ait pas.
Oui, il a fait le ménage centralisé, autour de lui.
Ouais. Exactement, il avait centralisé vraiment les pouvoirs autour de sa personne. Une option pourrait être de nommer un vice-prince héritier et de tenter de rééquilibrer les pouvoirs au sein du royaume. Ensuite, ça va être très difficile parce que pour l'instant, Mohamed Ben Salman a opéré un certain nombre de purges au sein même des cercles de pouvoir saoudiens depuis plus d'un an et demi. Il a centralisé totalement les pouvoirs et donc il est difficile de voir qui pourrait en fait vraiment contrebalancer son pouvoir.
Oui, parce qu'il a évincé son cousin de la garde nationale, il a évincé un certain nombre de personnalités. On parle quand même du retour de Mohamed Ben Nayef qui a été mis à l'écart pour faire son retour. C'est son oncle, c'est ça, hein?
C'est son cousin qui était le prince héritier avant lui et qui était en effet une figure qui avait beaucoup d'autorité et de légitimité pour le coup au sein de la famille royale et qui était proche des États-Unis et des puissances européennes parce qu'il avait joué un rôle notamment dans la coopération sur l'antiterrorisme entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc c'était quelqu'un qui en effet avait une forte légitimité, mais reste à savoir si Mohamed Ben Salman le laissera revenir au pouvoir. Pour l'instant, on dit qu'il a encore la main beaucoup, qu'il empêche par exemple certains membres de la famille d'accéder à son père, le roi Salman, qu'il contrôle encore un petit peu les allées et venues. Donc il va falloir voir comment en effet s'il laissera la place ou non à un vice-prince héritier.
Camille Lons, est-ce que, comme le dit le chercheur du CNRS Nabil Mouline, est-ce que MBS, Mohamed Ben Salman, est une erreur de casting?
Alors, c'est une question un petit peu difficile. En même temps, je pense que c'était un choix. Le fait de choisir quelqu'un d'aussi jeune, c'était un choix qui reflétait aussi les transformations de la société saoudienne. Quand il est arrivé donc au pouvoir l'année dernière, il avait 32 ans. Il faut savoir que 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Donc, je pense que c'était un choix quand même d'avoir quelqu'un qui représentait cette population dans un royaume qui est normalement dominé par des personnes plutôt âgée. Et voilà, montrer, c'était une image, un petit peu montrer cette image de l'Arabie Saoudite qui se renouvelle, qui va vers l'avenir. Mais clairement, le tournant autoritaire que cela a pris a posé beaucoup de questions et pose beaucoup de questions aux alliés de l'Arabie Saoudite.
Et finalement, ce qu'il a montré, Mohamed Ben Salman, en arrivant au pouvoir, l'ouverture des cinémas, la conduite autorisée pour les femmes, ça, c'était un effet de communication vis-à-vis de l'Occident ?
C'est un effet. Alors clairement, il y a un effet de communication pour l'Occident parce que la priorité pour l'Arabie Saoudite en ce moment, c'est une priorité économique. Donc, c'est Mohamed Ben Salman a lancé un plan de réforme économique qui s'appelle Vision 2030 et qui repose essentiellement sur le fait que qu'ils espèrent attirer des investissements étrangers. Et donc, cet effet d'image et de communication est très important pour attirer les investissements étrangers. Mais après, il y a en effet aussi une dimension économique qui est le fait d'autoriser les femmes à conduire, c'est les aider à pouvoir travailler. Donc, soutenir l'emploi des femmes, c'est soutenir du coup pouvoir augmenter la consommation au sein du royaume. Donc il y a tout un enjeu aussi économique derrière pour tout ce qui est l'industrie des divertissements. C'est une industrie aussi qui produit de l'emploi, qui génère de la consommation, etc. Et qui a du coup une dimension économique importante aussi.
Oui, il y a l'image et l'économie. Mais quand on parle de Mohamed Ben Salman, on parle du pouvoir, on parle du roi Salman. Du côté de la population, vous dites, elle a le même âge que le prince héritier. Comment réagit la population ? Est-ce qu'elle suit ?
Il a une très bonne image au sein de la population en Arabie Saoudite, mais dans le Golfe aussi de manière générale. C'est quelqu'un donc de jeune qui du coup représente un petit peu cette génération-là. Une grande partie de la génération saoudienne soutient en effet les réformes qui ont été faites par Mohamed Ben Salman. Après, ils ont accès aussi à différentes informations, c'est-à-dire que les informations qui sont suivies à l'intérieur du royaume ne sont pas les mêmes et n'ont pas du coup le même point de vue que celles qu'on voit nous de notre point de vue occidental. Mais de manière générale, il est plutôt suivi dans la population saoudienne et du Golfe en général.
Et ça joue même dans cette affaire Ramal Rachedi. Est-ce que ça joue en sa faveur en fait ?
Alors, je ne sais pas si l'affaire Jamal Khashoggi joue en sa faveur.
Vis-à-vis de la population.
Vis-à-vis de la population, c'est très difficile d'avoir accès vraiment à l'opinion publique saoudienne. Ça reste une société quand même assez fermée. C'est possible que la façon dont cela est présenté dans les médias en Arabie Saoudite laisse sous-entendre qu'il y avait des raisons pour que le prince opère une telle opération.
Dernière question, Camille. Qui est le bénéficiaire de l'affaiblissement de Mohamed Ben Salman ?
Pour l'instant, on voit bien que les voisins de l'Arabie Saoudite, notamment l'Iran, le Qatar, qui ne se sont pas beaucoup prononcés sur l'affaire, sont en train d'observer, sans doute non sans plaisir, ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Ça déstabilise beaucoup le royaume. Et puis, il y a aussi la Turquie, en ce moment, qui est beaucoup mise en avant et qui joue un rôle qui est un petit peu dans cette espèce de rivalité avec l'Arabie Saoudite pour le leadership sur le monde sunnite et qui regarde un petit peu ce qui est en train de se passer aussi avec beaucoup d'attention.
Merci beaucoup, Camille, spécialiste du Moyen-Orient, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité du 5-7. Merci et belle journée.